Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Continuons notre cheminement dans le catéchisme avec donc toujours la foi, je crois. Nous voyons dans le catéchisme donc que l'homme a le désir de Dieu, qu'il a le désir de Dieu parce que Dieu en lui a donné des moyens de le rencontrer. Je pense à une histoire. Oh, ça fait longtemps. J'avais été invité dans une aumônerie de lycéens, je crois, ou d'étudiants, je ne sais plus. Et on m'avait demandé de parler de Saint-Dominique, de la vie dominicaine, et j'essayais de montrer ce que c'était que dans l'expérience de la vie dominicaine, le souci de la théologie, parler de Dieu. Et je disais qu'on a toujours l'impression qu'il faut d'abord avoir des réponses. Certes, nous cherchons des réponses, mais je disais combien il est important d'avoir des questions et que finalement, notre relation à Dieu nous porte à poser des questions comme quelqu'un qu'on aime, qu'on a envie de mieux connaître. On pose des questions, on avance dans les questions, on entrevoit quelques réponses qui tout de suite nous donnent d'autres questions qui viennent. Et c'est ce dynamisme-là qui me semble être celui de la foi. Et alors, je disais donc ça au groupe de jeunes qui étaient là, et il y a l'un des jeunes qui me dit, un petit peu désabusé en écoutant ça, dit « Moi, je suis savoyard, j'habite dans un chalet, j'ai ma chambre qui donne sur une magnifique vallée. Moi, je ne pourrais pas passer mon temps à me poser des questions comme ça. Moi, Dieu, eh bien, comment je le reçois ? Quand je suis au balcon de ma chambre, j'ai un magnifique paysage et je me dis que Dieu est là et ça me suffit. »
Magnifique.
Oui. C'est magnifique, même si je trouve que ça mérite aussi de se poser des questions. Mais voilà ce que me disait ce jeune. Et du coup, la question est vraie. Beaucoup de gens peuvent se la poser. Comment Dieu fait-il pour nous rejoindre ? Comment avons-nous cette connaissance de Dieu ? Je crois que c'est important d'aborder ça. Le catéchisme lui-même le fait en commençant à parler de la foi.
Oui, l'homme est capax dei dans son intelligence, dans sa volonté à se diriger vers celui qui est premier dans toute l'histoire et dans sa propre histoire. Et de ce point de vue-là, il y a un questionnement d'où je viens, où je vais, quelle est la raison de ma venue sur la terre, pourquoi j'existe, pourquoi mes parents existent, pourquoi mon entourage existe. Ces questions existentielles parcourent toute l'histoire de l'humanité. Souvenons-nous notre grand Shakespeare, « To be or not to be, that's the question. » Être ou ne pas être, voilà la question. Nous avons inévitablement ce questionnement. Et dans ce questionnement de notre être, il y a possibilité de nous ouvrir à quelque chose qui est plus grand, même si, évidemment, cette connaissance que nous aurons à travers ce qui est limitée. Nous arrivons à des voies d'existence de Dieu. Nous n'arrivons pas à ce qui serait des preuves d'existence de Dieu. On les a appelées d'une manière un peu abusive des preuves d'existence de Dieu. À mon avis, il faut plutôt dire des voies, c'est-à-dire un chemin pour l'intelligence, de telle sorte qu'on puisse se dire, bon, si il n'y a pas d'objection majeure à ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de raison de nier ce vers quoi je tends et qui est ce premier dans l'être, qui est celui d'ailleurs qui dans la révélation, mais c'est un autre temps la révélation, a affirmé « je suis celui qui suis » ou « je suis celui qui serai » s'il y a une perspective aussi de salut dans ce que le Seigneur dit à Moïse. Mais il y a toutes les occurrences où Jésus utilise le mot « je suis », « je suis le bon pasteur »,« je suis », avant qu'Abraham fût, je suis, et des expressions très fortes, oui, montrent que le rapport à ce qui est pose déjà le jalon pour remonter vers le celui qui est à l'origine. Alors, c'est vrai que le catéchisme énumère quelques éléments, comme au numéro 32, le devenir, le mouvement, la contingence, l'ordre, la beauté. Nous avions signifié l'autre fois la finalité, le nécessaire, etc. Tous ces éléments que l'on rencontre.
En regardant le monde.
En regardant le monde. En regardant le monde et donc en regardant nous-mêmes. Mmh. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie à la Prima Pars, question 2, article 3, dit, il parle toujours des choses. Il propose cinq voies d'existence et il dit des choses sensibles, des choses. Il part toujours du réel. C'est très intéressant. C'est-à-dire que Dieu nous a donné la possibilité, avec notre intelligence, de nous poser les bonnes questions, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'on a des preuves, mais on a un chemin qui balise bien la voie, un peu comme nous aurions un poteau indicateur dont il serait comme, en quelque sorte, certifié par le gouvernement en disant, voilà, la route vers les Pyrénées, c'est bien celle-là, il n'y a pas eu de manipulation, il n'y a pas un petit malin qui a été détourné les poteaux, l'indication est bonne, je peux avancer dans cette direction sans me tromper, je vais vers les Pyrénées, voyez.
Cela me fait penser, donc quand on voit le catéchisme qui dit, en voyant le monde, dans le rapport au monde, donc ce que tu as après... que tu as énuméré là, que le catéchisme nous...
Et qui nous ramène à la beauté que tu évoquais, c'est pour ça que je citais ce numéro 32.
Eh bien, mais je me dis, pour bien des gens, certains croyants vont avoir une espèce de vision éthérée de la relation à Dieu, et le monde sera vu comme détournant de Dieu. Du reste, certaines interprétations qui vont être faites de l'Évangile, l'opposition entre le monde et Dieu, font que on risque de ne pas tirer parti de ce par quoi Dieu vient à nous. Notre rapport au monde, le rapport pessimiste qu'on peut avoir au monde, demande à être réévalué, à être requalifié.
Oui, je crois que ça fait du bien de lire de temps en temps, je dirais, des auteurs optimistes, parce que nous sommes avec des médias qui surabondent, en fait, l'esprit de l'homme de valeurs pessimistes. Et du coup, quand vous rencontrez un journaliste, vous apercevez que très souvent, il n'est pas très amusant, parce qu'il est triste dans le fond de son âme. Il colporte seulement des affaires tristes, des choses tristes, il a un discours triste. Et du coup, vous apercevez que c'est la pente vers laquelle il vous entraîne, parce que, il s'est bien connu, une bûche allumée au feu va déclencher un feu auprès d'une bûche qui n'est pas encore allumée, qui s'approche d'elle. Le feu se transmet au feu. Et nous avons besoin, nous, de nous réveiller dans notre amour du beau. Lisons, par exemple, les confessions de saint Augustin, qui sont d'ailleurs proposées dans ce même numéro 32, évoqué juste avant, du catéchisme de l'Église catholique. Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, et on songe à tous ces océans si extraordinaires, qui sont si faciles d'accès maintenant avec tous les beaux bateaux que nous avons. Interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse. Songeons à toutes ces découvertes que nous avons par les avions, on peut voler au-dessus des nuages, c'est extraordinaire. Et beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Donc c'est pareil, c'est cette même idée de passer par le réalisme de ce qui est. Toutes te répondent, vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites sinon le beau, Pulcher, non sujet au changement. Et c'est la façon dont saint Augustin se dit, c'est pas possible. Ce monde qui bouge, il doit y avoir quelque chose au-dessus de la console de celui qui dirige toutes les choses comme une sorte de mécanique biologique. Il y a quelque chose au-dessus qui est au-dessus et qui est capable de voir.
Faut-il voir dans le changement dont parle saint Augustin aussi la capacité du progrès ? Puisque certains vont dire, mais le progrès nous conduit au mal. Le produit ne conduit pas que au mal. Le progrès peut conduire au mal, mais c'est quand l'homme se vise lui-même et ne vise plus
sa finalité, qui est le bonheur. Oui. Parce que dans le fond, par derrière tous ces textes que nous donne le catéchisme et la révélation, plus généralement, c'est que cette direction, ce n'est pas seulement le bien qui est Dieu, mais notre participation à ce bien qui est Dieu et qui est le bonheur. Il y a un appel, en fait, très profondément au bonheur. L'homme est triste, finalement, quand il n'a pas découvert où est le bonheur, et il se complaît dans cette tristesse, et il commence à avoir du discrédit vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, vis-à-vis de la société, alors que c'est une société qui est déjà très comblée. Et malgré tout, il critique tout le temps, il est toujours à rechigner contre les choses, alors qu'il ne voit pas qu'il perd son bonheur, parce qu'il ne se dirige plus vers son bonheur. Et retrouver le sens de la vie, c'est retrouver le sens, finalement, du bonheur que Dieu veut nous donner.
Oui, le bonheur... Du reste, donc le regard sur le monde est une manière par laquelle Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint et nous visons bien ou nous visons pas bien dans notre regard sur le monde, si je puis dire. Et il faudrait parler aussi de l'homme. Peut-être nous le ferons dans un prochain échange, parce qu'il doit y avoir beaucoup à dire sur l'homme, que le catéchisme cite comme aussi une des voies par laquelle Dieu s'y prend pour nous rejoindre. Notre relation à l'homme, notre relation à notre humanité est un lieu où nous faisons l'expérience aussi de Dieu.
Oui, et ce qui est triste, c'est que quand celui qui n'a pas cherché toute sa vie Dieu est un peu perdu et finalement est un peu hagard, hein, comme quelqu'un qui serait un assoiffé dans le désert, ne sachant plus quelle est la bonne direction de prendre. Saint Augustin propose à la place de retrouver la louange « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi ». Voilà le repos que nous proposons, qui est un bonheur, et nous avons la myriade de saints dans l'histoire de l'Église, et les saints contemporains, il suffit d'ouvrir les yeux, qui montrent qu'ils ont trouvé le bonheur et que pour rien au monde, ils voudraient le lâcher. C'est ça qui fait la force de l'Église. C'est le fait que, on a beau avoir tous les scandales du monde, on reste fidèle parce que nous savons que là est notre bonheur.